Vous êtes sur RTL. Ou sur RTL.
Et donc nous sommes avec Fabrice, un policier tué hier lors d'une intervention près d'un point de deal à Avignon. Fabrice, vous êtes vous-même confronté à ce type d'opération ?
Oui, tout à fait. Permettez-moi, Pascal Praud, dans un premier temps, d'avoir une pensée pour Eric, ce brigadier de police, son épouse, ses enfants, l'ensemble de nos collègues qui, une nouvelle fois, sommes touchés par un drame.
J'entends bien, Fabrice, j'entends bien. Mais qu'est-ce que on peut ajouter à cette tristesse ou à cette colère, peut-être, qui semble vous habiter ?
Avant la colère, on est là pour servir nos concitoyens. Un appel 17, une intervention de police classique, quotidienne. On arrive sur des perturbateurs. Et il se trouve en fait que c'est un point de deal de transaction en matière de stupéfiants. Mmh. Cette intervention, elle vire au drame. L'individu est toujours en fuite et potentiellement toujours armé. Donc dangereux, même pour l'ensemble de nos collègues qui vont intervenir pour procéder à son interpellation. La justice, le procureur, maintenant doit mettre tout en œuvre pour interpeller cet assassin.
Mais sans doute, c'est d'ailleurs ce qui va se faire. Sans doute ce qui va se faire. On n'imagine pas, en tout cas, une autre stratégie.
Non, il faut employer les moyens nécessaires, type l'intervention du RAID pour aller le chercher, et avant qu'il fasse d'autres victimes dans nos rangs. D'autre part, les annonces d'effet de poudre que le gouvernement nous annonce, et de par le drame de Rambouillet, a renforcé le commissariat, ce qui n'a pas été fait en réel, hein, je peux vous l'assurer, sans citer les commissariats concernés. Maintenant, j'en appelle ouvertement à l'union syndicale, à l'ensemble de nos collègues, à l'ensemble de nos citoyens qui soutiennent encore les forces de l'ordre au jour d'aujourd'hui pour pouvoir produire une action conséquente, quitte à déposer les armes, à montrer au gouvernement et pas de prendre de façon préélectorale un an à l'avance des élections, de se dire on va faire en matière de sécurité. On perd des effectifs dans nos rangs toutes les semaines, dans différents faits divers, que ce soit le terrorisme, que ce soit des points de deal et tout ça.
Non mais j'entends Fabrice, mais la difficulté de ce sujet, c'est d'apporter une réponse. Donc est-ce que cette réponse, elle est en termes de moyens ? Est-ce qu'elle est en termes de politique qu'il faut changer, politique pénale d'action, ou même politique d'action. Alors ça veut dire quoi, précisément ?
En action, changer. Comme je vous dis, nos unités, l'ensemble de nos collègues, à un moment, doivent s'unir et déposer les armes.
Oui, mais ça, c'est pas une solution de déposer les armes. On dépose les armes pour demander quelque chose.
Mais demander des moyens nécessaires.
Eh ben c'est ça ma question. Je veux dire, si on va vers les solutions, vous êtes, vous, policier, qu'est-ce que vous réclamez pour que les choses changent ? Plus de moyens, une politique différente, une stratégie qui ne soit pas la même que celle d'aujourd'hui ?
Moins de laxisme au niveau de la police, et sur différents sujets où des personnes se retrouvent en liberté.
Donc ça, c'est pas la police, le laxisme. La police, elle fait son job, c'est la justice. C'est la réponse pénale, selon vous.
Voilà, la réponse pénale, il y a un grand fossé.
Qui n'est pas assez forte.
Non, le travail de la police, gendarmerie est fait auprès du procureur. Mmh. Une fois qu'on traverse le fossé, la justice ne répond pas présent.
Alors, d'accord, mais là encore, on essaie toujours d'expertiser. Pourquoi elle ne répond pas présent ? J'imagine qu'un magistrat, il n'a pas envie de mettre dans la nature quelqu'un qui va tuer des citoyens français.
Pourtant,
donc c'est que les lois ne sont pas assez rudes, c'est que
elles ne sont pas adaptées.
Elles ne
sont pas adaptées du tout.
Mais est-ce que vous pouvez donner un exemple ? Parce que on a toujours besoin d'exemples pour éclairer et comprendre une situation.
Mais l'exemple, vous l'avez sur un autre sujet qui est arrivé sur cette dame avec son compagnon, où il a été relâché, qui n'avait pas de bracelet électronique, qui n'avait pas d'appel de secours, il n'y avait rien. On a relâché, il a à peine sorti de prison.
Mais il ne pouvait pas avoir un bracelet, puisque quand il a été condamné, le bracelet n'existait pas. Vous voyez, c'est pour ça que moi j'essaye toujours d'apporter, pardonnez-moi, la contradiction de temps en temps à ce que vous dites. J'entends votre remarque, je l'ai entendue depuis ce matin. Mais quand il a été condamné, le bracelet n'existait pas, le bracelet qui permet de ne pas approcher
sa victime. Il est sorti de prison il y a quelques jours. Il est sorti de prison il y a quelques jours.
Il est sorti de prison il y a plus que cela, puisqu'il y avait déjà une plainte qui avait été portée le 15 mars.
Oui, mais les faits sont récents et je pense que le bracelet...
Voilà, il convient de préciser qu'à l'époque, le dispositif de bracelet anti-rapprochement, ce qu'on appelle la barre, n'était pas effectif. La victime ne disposait pas de téléphone grave danger, hein, la victime, hein, et le mis en cause ne s'était pas vu attribuer de bracelet anti-rapprochement. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et son écrou a été levé le 9 décembre 2020. Il était depuis suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Gironde, dans le cadre de la peine de sursis probatoire.
Vous voyez, écoutez,
donc il est sorti il y a moins de 6 mois.
Il a été merveilleux, le suivi, parce que...
Il n'y a pas eu de suivi, mais c'est pour ça qu'il y a également, on l'a dit tout à l'heure, une mission d'inspection décidée par Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, qui a saisi l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la justice. Pardonnez-moi d'être un peu technique et par les réponses que je vous donne, mais c'est ce qui s'est produit ces dernières minutes.
Mais on a remis un individu dangereux, potentiellement dangereux, a commis un acte ignoble hier, et malheureusement, la justice, une fois de plus, n'a pas répondu présent. Les magistrats sont en cause derrière. Et au niveau du travail de la police, pour revenir à notre collègue qui a été tué et tout ça, malheureusement, nous avons trop de rappels à la loi, nous n'avons pas assez de sanctions adaptées aux crimes que ces gens-là ont commis, les suivis ne sont pas mis en place, et les premiers qui sont confrontés à ce système-là, c'est nos collègues qui interviennent tous les jours dans les cités ou dans n'importe quel endroit et se font et sont des cibles. On se fait tirer comme des lapins en ce moment. Voilà, tout simplement.
Bah merci en tout cas, Fabrice, de ce premier témoignage.
Merci à vous.
Merci. J'imagine en plus combien vous êtes touché, j'ai envie de dire personnellement, hein, puisque vous êtes policier, et combien on peut avoir une pensée pour tous les policiers, et regretter, pour tout vous dire, parfois, qu'il y ait un climat anti-flic qui règne, et pas simplement dans le monde politique, mais aussi, disons-le, parfois, ce qui n'est pas le cas évidemment à RTL, mais dans les médias, c'est-à-dire que ça peut arriver qu'il y ait une sorte de climat anti-flic qui existe. Merci et à tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Bonjour Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Éric était policier, il avait 36 ans, père de 2 petites filles de 5 et 7 ans. Il a été tué hier lors d'une intervention près d'un point de deal à Avignon. Fabrice est lui aussi policier et il a été le premier à réagir au 32-10.
Aujourd'hui, notre institution à nouveau endeuillée. Tristesse et colère.
L'État protège-t-il encore ses forces de l'ordre? William Maury du syndicat Alliance Police Nationale est au micro d'Étienne Baudu.
On a l'impression qu'on enterre nos collègues en permanence. Bien sûr qu'il y a de la colère. Vous avez une mère de famille, vous avez un papa, vous avez 2 enfants qui allaient expliquer à 2 gamins en bas âge qu'ils ne vont pas revoir leur père. Parce qu'un mec sur un point de deal pour gagner 100 euros, il a abattu un policier de sang-froid. Bien sûr qu'il y a de la colère. Alors c'est bien beau d'avoir des hommages nationaux, etc. La seule chance qu'on demande, c'est d'avoir une justice cohérente. Un auteur, quand il est interpellé, pour avoir tapé sur un policier, il part en prison directement. Voilà, la case impunité, elle n'y est plus. C'est tout ce qu'on demande.
Il n'y a pas de mots pour qualifier l'horreur, réagit Mireille sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole, soutien aux forces de l'ordre. À quand la fin du laxisme? Et pour Eric, les policiers sont devenus des cibles. La faute à qui? Sûrement à tous nos ministres de l'Intérieur et de la Justice depuis de nombreuses années. Alexandre est en colère sur nos réseaux sociaux. Les sanctions contre celles et ceux qui agressent les policiers sont trop légères. Ça part de là. Et les discours, c'est bien beau, lance Fred. Mais après, que fait-on? Il est temps d'agir avant un nouveau meurtre.
Merci Laurent, on est avec Gérard. Bonjour Gérard.
Bonjour Pascal.
Vous êtes policier également ?
Absolument, absolument. Bon, écoutez, je viens d'entendre ce que je viens d'entendre. J'ai rien à rajouter sur le fait que, effectivement, je m'associe à la douleur de la famille. Je pense surtout aux enfants qui vont se construire sans leur père, parce que c'est un policier, mais c'est aussi un papa, c'est aussi un citoyen. Il faut quand même jamais l'oublier. Moi, en fait, je vais avoir un axe un peu différent parce que on oppose toujours police-justice. Je trouve que c'est une défiance totalement stérile. Je pense que la justice et la police sont logées à la même enseigne, c'est-à-dire qu'elles sont exsangues. Je pense que effectivement, il y a des gens, des magistrats qui sont de gauche, qui soi-disant vivent à la manière de droite, mais nous donnent des leçons d'humanité. Mais ça, c'est vraiment minime. Je pense que c'est dans toutes les professions. Là, moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'il faut mettre les moyens. Les moyens, c'est simple. Déjà, appliquer la loi. Arrêter. Il faut que le législateur arrête de faire des lois tous les matins, des lois qui sont même pas appliquées. Donc, à un moment donné, qu'on se conforme à ce qu'on a déjà. Le code pénal est largement suffisamment fourni. qu'on applique les lois dans un délai raisonnable, voire dans l'immédiateté, ce serait déjà un préambule, parce que quand vous avez des gamins de 11, 12, 13 ans qui commettent des actes hallucinants et qui passent devant un tribunal pour enfants 2 ans, 3 ans après, alors que 2 ans, 3 ans, c'est une éternité pour eux, je vois pas à quoi peut rimer cette sanction, donc vraiment, je comprends pas. Et en fait, on dépense notre argent, l'État dépense son argent en aval, alors que c'est en amont qu'il faut le faire. Et en amont, c'est quoi? C'est quand répondre pénalement parlant, c'est quoi? C'est aux besoins incarcérés, trier les détenus, pas les mettre les uns avec les autres, le petit voleur, entre guillemets, façon de parler, parce qu'aujourd'hui, pour arriver en prison, il faut déjà en avoir fait quelques délits, mais déjà trier, accompagner, c'est-à-dire éduquer, parce que malheureusement, c'est l'éducation qui joue aussi. Les former, et d'une manière générale, c'est leur donner une vision et un espoir pour vivre. Je pense que les mecs de cité, eux, la vision qu'ils ont aujourd'hui, pour faire simple, c'est de voir leur grand frère, façon de parler, c'est très clichéste, mais c'est la réalité, qui va se faire 2000 euros en une journée. Comment vous voulez-vous dire à un enfant d'apprendre à lire, écrire et compter pour avoir un boulot où péniblement il va gagner 2000 euros dans son mois, alors que de l'autre côté, il y a un modèle qui est complètement lunaire, certes, mais qui existe. Alors il y a ça, et mon deuxième angle d'attaque, entre guillemets, moi j'en ai un peu marre de ce dogme qui consiste à dire qu'il faut lutter contre le trafic de stupes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, enfin il y a 20 ans, c'était contre le trafic de stupes.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas lutter contre le trafic de stupes?
Alors je vais développer ma pensée. Il faut clairement, mais à un moment donné, là où il y a de la demande, il y a un marché. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire du monde, l'histoire de la prohibition. Là où il y a de la demande, il y a un marché. Il se trouve qu'il y a de la demande. Donc dire qu'on va lutter et anéantir le trafic de stupéfiants en France, c'est illusoire. C'est totalement illusoire. Après, les bonnes questions à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait pour essayer de légiférer dans le bon sens? Moi, je suis personnellement, de fait, je suis pour la légalisation, en tout cas pour cette drogue dite, entre guillemets, douce. Pourquoi? Parce que déjà, ça permettrait à l'État d'arrêter de lutter, le trafic s'effondrerait de lui-même.
Mais c'est quand même, ça peut apparaître comme une sorte de démission quand même. C'est-à-dire que c'est illusoire, on n'arrive pas.
Non, c'est du pragmatisme.
Mais j'entends bien. C'est pas incompatible, c'est pragmatique. Vous dites, comme on n'y arrive pas, on va légaliser. Mais convenez que je peux aussi l'interpréter en disant on baisse les bras. C'est ça que ça veut dire.
Est-ce que vous pensez que l'État, en tout cas, est-ce que vous pensez que la France, les Français sont prêts à payer des impôts encore davantage pour pouvoir, parce que ça coûte énormément d'argent, ça génère tellement d'argent ce trafic de stupéfiants. Vous pensez bien que derrière, de toute façon, la nature a horreur de vide. Vous démantelez un réseau, il y en a un autre qui vient. Tant qu'il y a de la demande, il y a forcément.
Oui. J'entends bien, mais on s'est un poil éloigné peut-être du drame d'Avignon.
Malheureusement, le drame, c'est aujourd'hui et c'est demain. Demain, hier, c'était mon collègue. Aujourd'hui ou demain ou plus tard, ce sera peut-être moi et ainsi de suite. C'est d'une tristesse infinie, mais c'est malheureusement le quotidien des Français. Et après, je voulais juste terminer là-dessus. Je pense que effectivement, on est encore capable de lutter contre la délinquance et la criminalité, parce que là, par exemple, il y a les moyens pour retrouver cet individu. Mais dans le quotidien, la petite délinquance et le mal doit être pris à la racine. Dans le quotidien, la petite délinquance, j'ai quand même la sensation que c'est un peu compliqué en termes de réponse pénale. C'est un peu compliqué.
Et oui, mais là aussi, il y a peut-être démission. C'est pour ça qu'on peut s'interroger sur une doctrine qui a existé.
Mais il faut des moyens. Il faut des moyens.
Moi, je ne partage pas. Si vous me permettez, Gérard, les moyens, c'est la conséquence d'une politique. Donc, si on veut faire une politique, on se donne les moyens. Voilà. Ça va dans ce sens-là. Donc si on décide d'une politique différente, par exemple à New York, un jour ils ont inventé tolérance zéro. C'est pas rien, tolérance zéro, c'est une doctrine très claire qui vise à punir sévèrement les délinquants à la moindre infraction à la loi. Raccourcissant au maximum le délai entre le délit et la réponse judiciaire. La notion de tolérance zéro, si elle n'est d'ailleurs pas tout à fait définie, elle suggère par sa formulation qu'aucune infraction n'est tolérable, sans circonstances atténuantes. Bon, donc c'est une théorie qui en vaut peut-être une autre. Elle n'a jamais été imaginée en France parce qu'on nous dit c'est pas notre culture, c'est pas notre ADN, c'est pas notre tradition. Pourquoi pas? Moi, d'un point de vue naïf, je pourrais dire, et si on essayait une fois? Et si on essayait une fois, ça serait peut-être intéressant. Peut-être verrait-on des résultats. Là, on sort d'un climat où, il y a quelques années, Madame Taubira expliquait que la réponse à la délinquance, c'est pas la prison. Donc, c'est un changement de paradigme, comme dit l'autre. On continue le débat à 13h18. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Hervé est là. Bonjour Hervé, vous êtes artisan en Haute-Saône et vous vouliez réagir sur le drame d'Avignon, cette actualité qui est très lourde, puisqu'on parlera aussi forcément du drame de Mérignac tout à l'heure. Bonjour Hervé.
Bonjour Pascal Pro. Bah écoutez, c'est une sensation de dégoût. On n'avance plus, on est dans une société qui est de plus en plus violente et avec aucun résultat. Le résultat, il est pour moi très simple, la justice. Il faut vraiment qu'un jour ou l'autre, on se pose les bonnes questions. La violence en France, elle augmente depuis 30 ans, petit à petit. On entend tous les ministres qui ont existé depuis 30 ans rabâcher la même chose.
Bah, c'est ça qui est paradoxal, parce que les criminologues, et pardonnez-moi de vous couper, comme Alain Bauer, expliquent que la liste des crimes, ou plus exactement des homicides, la liste des homicides, elle baisse quasiment depuis 5 siècles.
Non, elle baisse, mais elle est beaucoup plus violente qu'avant.
Bah, si, y a moins de morts. Les homicides, il y en a moins qu'avant.
Il y a moins de morts, mais quand...
c'est ça qui est paradoxal, mais peut-être qu'il y a une petite délinquance. Alors, elle a un peu remonté ces dernières années pour la première fois, mais la courbe baisse depuis, j'allais dire, la nuit des temps. Il était plus dangereux d'être un Parisien en 1921 et de se balader dans les rues que d'être un Parisien en 2021 et de se balader dans les rues. Voilà.
Oui, enfin, Paris n'est pas le centre du monde.
Paris ou la France, c'était plus dangereux. Voilà, il y avait plus d'homicides.
La délinquance, elle est partout. Maintenant, on ne peut plus dire qu'elle est dans les grandes villes ou dans les villages. Il y a une délinquance qui augmente en permanence, de la petite délinquance. Et puis, c'est un problème pour moi, c'est simplement un problème de justice. Un problème de justice et politique. On est dans un système où les politiciens, encore plus en ce moment, quand on voit quand même le ministre de la Justice qui, pour le moment, se pose la question de savoir s'il va se présenter ou pas aux prochaines élections, je pense qu'il aurait autre chose à faire à l'heure actuelle que de se poser ces questions-là. Quoi. On est dans un système où on voit de plus en plus de violence. Cette violence, pour moi, elle est quand même facile à régler. C'est pas une histoire de moyens, c'est une histoire de donner certains pouvoirs, policiers, gendarmes et douaniers.
Le nombre d'homicides a été divisé par deux depuis 1988 en France.
Non, mais d'accord.
Vous voyez, c'est ça qui est tout à fait pas particulier. Mais il n'y a pas que cet indicateur. L'homicide est un indicateur, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr.
Non, mais le problème qu'on se pose aujourd'hui, c'est. D'ailleurs, c'est un peu la partie du débat. Est-ce qu'il y a une société anti-flic ? Oui, il y a une société anti-flic. Oui, il y a une société anti-gendarme, anti-représentant de l'ordre, de la loi. Les profs n'ont plus aucun pouvoir. Un prof qui, malencontreusement, va mettre une petite claque à un gamin, c'est la condamnation, c'est la justice. Il y a 30 ans en arrière, quand on allait voir nos parents, puis en disant qu'on avait pris une claque par le prof, on en reprenait une deuxième.
Non, mais ce rapport à l'autorité, vous avez raison, on le dit chaque matin, mais c'est toujours pareil, là aussi, une fois qu'on fait le constat, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous imaginez, Hervé ?
Des peines beaucoup plus sévères. Moi, vous savez, j'ai pas mal
alors,
de...
Alors, ça, c'est intéressant. Par exemple, vous dites peines sévères. On va prendre le drame de Mérignac. Le 25 juin 2020, à Bordeaux, Mounir B, qui a donc été... qui, hier, a tué cette femme, qui est quadragénaire, il a été condamné à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis et mandat de dépôt à l'audience pour violence volontaire par conjoint en récidive sur la même victime. Bon. Donc, on peut imaginer, je ne sais pas ce qu'il fait précisément à celle qui est sa compagne. Il la frappe, il la bat, il la maltraite. Il prend 18 mois de prison, dont 9 avec sursis, je le rappelle. Et c'est une récidive. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il avait obtenu à compter du 5 octobre une mesure de placement extérieur. Et je l'ai dit tout à l'heure, il est donc sorti le 9 décembre. Je répète, il est condamné le 25 juin 2020 et il sort... le 9 décembre. Bon. Est-ce que vous trouvez que cette peine est trop faible ?
Oui, tout à fait.
Et combien vous imaginez ? C'est-à-dire qu'en récidive, quand tu maltraites, frappes, ta compagne ou une femme d'ailleurs, hein, que ce soit ta compagne ou pas, et quel type de peine vous imaginez quand c'est en récidive ?
Mais c'est minimum 5 ans, et puis dans des conditions bien définies. La prison, c'est sûr qu'il y a une surpopulation carcérale. En principe, quand on va en prison, j'écoutais le policier tout à l'heure, pour aller en prison en France, il faut déjà avoir un casier qui est assez sympathique. Donc, à un moment donné, et puis la prison, c'est pas des prisons comme en surpopulation carcérale, c'est pas ça. La prison, il faut qu'elle soit dure, extrêmement difficile. Vous voyez, on est dans un système où toutes les communes de France manquent de gens pour entretenir et tout ça. Et bien, se dire, ils sont accompagnés, il faut mettre les moyens, avec soit des anciens militaires ou n'importe quoi, et puis les mecs qui vont le matin, ils se lèvent, ils vont nettoyer les bois, ils vont nettoyer les rivières. Il faut en chier en prison. Faut pas aller en prison et puis qu'il soit plus sympathique que d'aller au boulot le matin.
Bah merci Hervé, merci beaucoup en tout cas et pour ce nouveau témoignage. Les auditeurs ont la parole.
Je voulais rajouter une petite chose. Moi je porte déjà mes condoléances les plus sincères à la famille et j'aimerais qu'un jour une radio comme vous, qui avait quand même un taux d'audience assez sympathique, on fasse un pourcentage des gens en France qui soutiennent encore la police, gendarmerie. Et dernière petite chose, vous savez, quand la société s'attaque aux pompiers, des gens qui viennent sauver les vies, ça sent pas bon.
Alors Hervé, moi j'ai pas de chiffres à vous donner. Ce dont je suis persuadé, c'est qu'une immense majorité du public soutient la police. C'est ça la vérité. Une immense majorité. Alors il y a parfois une petite classe médiatique qui, pour des raisons précises, j'allais dire, et pardonnez-moi l'expression, elle est un peu triviale, casse du flic. Bien sûr, ça peut exister parce que, voilà, ça, c'est comme ça. Mais je suis convaincu que, quand je dis le plus grand nombre, l'immense majorité des gens, effectivement, d'ailleurs, ont un rapport serein avec la police, pour tout vous dire. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont arrêtés, ils obtempèrent, ils font ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Ils sont plus dans un état d'esprit d'aider la police, que ça se passe bien, que ça se passe vite, parce qu'au fond, ils n'ont évidemment rien à se reprocher, plus que d'être en conflit ou en hostilité avec la police. A tout de suite.
Et jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et Laurent Tessier, comme tous les jours.
Vous pouvez nous appeler sur ce terrible drame à Mérignac. Shaïnez, 31 ans, maman de 3 enfants, est décédée mardi. Son conjoint, déjà emprisonné pour violence conjugale en 2020, lui a tiré plusieurs coups de feu dans les jambes. Puis elle a été brûlée vive, l'horreur absolue. Ernestine Ronet, responsable de l'Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes, était l'invitée de RTL Midi.
Au départ, le contrôle judiciaire n'a pas été contrôlé. Il faut donc un meilleur contrôle social. La dame avait porté plainte une deuxième fois pour une tentative d'étranglement. Donc, elle avait risqué la mort à ce moment-là. On peut imaginer que même si on ne retrouve pas l'agresseur, le procureur donne à ce moment-là à la femme victime un téléphone grave danger.
Comment un homme aussi violent, dangereux peut-il avoir des armes ? Shaïnez avait de nouveau porté plainte le 15 mars. La justice a-t-elle failli ? Quel manque de sévérité en amont sur cet homme ? Soupire Jamy sur nos réseaux sociaux. Justice une nouvelle fois trop laxiste. Aujourd'hui, on gère la France à coups de com', déplore Annick, c'est désolant. Où était la surveillance du conjoint ? Dans cette affaire, demande Emmanuel, les féminicides doivent être un dossier prioritaire. Pour Marie, une nouvelle fois, il faut mettre plus de moyens. Et je rappelle un chiffre terrible, 39 femmes ont été tuées par leur mari ou leur compagnon depuis le début de l'année.
Alors je le disais tout à l'heure, cette antienne qui voudrait que la société soit de plus en plus violente, c'est démenti par les statistiques de homicides, même s'il n'y a pas que des homicides pour établir un plan global sur ce qu'est la sécurité d'un pays. Mais en 1988, par exemple, ramené à une population de 100 000 habitants, nous étions à 2,79 homicides contre 1,36 pour l'année 2019. Donc 2,79 contre 1,36. Donc je disais tout à l'heure, ça a divisé par deux. Et ça, ce sont les homicides réussis, si j'ose dire. C'est-à-dire que les gens sont morts. Donc c'est intéressant parce que en 88, donc c'est en 33 ans, on voit que y a moins de tués par homicide. Roland, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous vouliez réagir sur Avignon.
Oui, je suis évidemment vraiment très attristé et révolté même, parce que tuer du flic, je veux dire, on n'en peut plus là, ils n'arrêtent pas de... Les délinquants, les voyous et tout ça n'arrêtent pas de tuer des policiers. Alors j'étais assez d'accord avec ce qu'Hervé disait tout à l'heure. Si on avait en France pas parler de moyens, parce que vous avez répondu déjà. Les moyens, ça découle d'une politique. Mais si nos chers députés, parce qu'on tape sur les magistrats qui ne font qu'appliquer la loi qu'on leur a confiée, hein, ils sont responsables de la loi et en charge de la faire appliquer, mais si nos chers députés, au lieu de, je vais être méchant, mais je vais dire, au lieu de glander à l'Assemblée nationale, voter des vraies lois qui sont capables de fixer des barrières, des limites qu'on n'a pas le droit de dépasser avec des sanctions qui sont exemplaires, je pense qu'on n'en serait pas là. Alors vous êtes en train de nous expliquer, Pascal, que la délinquance, elle baisse. On parle des morts. Bon, vous avez les chiffres, je ne les ai pas. Je ne vais pas vous contredire. Mais simplement, ce que je vois, c'est que la petite délinquance, elle commence de plus en plus tôt. Elle commence même dans les écoles maintenant. Et si on n'est pas capable, dans les écoles, de faire appliquer des principes républicains en expliquant ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire, mais ces jeunes qui aujourd'hui sont, entre guillemets, irresponsables, parce qu'ils ont des parents qui ont complètement démissionné, si on arrivait à recadrer tout ça, peut-être qu'on vivrait un petit peu mieux. Alors évidemment, ça ne va pas résoudre le problème demain matin, on est d'accord. On est d'accord. Mais franchement,
mais peut-être, c'est l'histoire de tolérance zéro. On revient à cela.
Demandons à nos députés qui se bougent un peu, c'est à eux qui font les lois. Donc c'est à eux de prendre l'initiative, et Hervé a raison sur un truc, ils sont tous en train de regarder si on va pas leur piquer leur siège. Si je fais ci ou si je fais ça, je vais avoir moins d'électeurs et ainsi de suite. Mais ça c'est notre système.
Non mais le débat, moi ce que je trouve, c'est que le débat sur la sécurité, il est jamais posé, finalement. Oui. C'est-à-dire que c'est philosophique, un débat sur la sécurité. Oui, tolérance zéro, c'est quoi? C'est une théorie qui est illustrée par la vitre brisée. Si une vitre d'un bâtiment est brisée et si elle n'est pas immédiatement remplacée, certains pourront en déduire que le bâtiment est abandonné et en voie de délabrement. En conséquence, d'autres vitres risquent d'être à leur tour brisées, les délinquants considérant que ça n'a aucune importance. Théorie possible. Voilà. Je ne dis pas que c'est celle qu'il faut. C'est une théorie possible. C'est-à-dire qu'on ne laisse rien passer. Mais rien de rien.
Tout à fait.
Bon, c'est-à-dire que vous avez peut-être vu les images à Saint-Nazaire de cette voiture de police. Évidemment, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes qu'à Avignon. Elle a simplement été caillassée, chahutée. Elle est filmée par des jeunes. Les jeunes insultent, etc. Bon. Donc, si tu considères que ça, déjà, c'est très, très grave.
Bien sûr.
Si tu considères que c'est grave, et ça peut l'être, et que tu prends des sanctions extrêmement, fortes pour cela. Alors, est-ce que c'est suffisamment dissuasif pour mettre, entre guillemets, tout le monde au pas? Je pose la question.
Alors, je n'ai pas la réponse immédiatement, bien entendu, mais comme on ne l'a jamais essayé, on ne peut pas le savoir.
Tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un pays l'a fait, quoi, une ville l'a fait, c'est Giuliani, tolérance zéro, Rudolph Giuliani, et ça a marché. Parfois, à Baltimore, j'ai lu qu'il y avait des essais, c'était parfois critiqué. D'ailleurs, c'est très intéressant comme débat. Tolérance zéro. Vous doutez bien que ce n'est pas moi qui vais vous donner la réponse. Faudrait écouter des criminologues, des professionnels, des gens qui connaissent ce métier, etc. Mais ce débat, il n'est même pas posé. Il n'est pas posé en France.
C'est ça. Ben voilà, on est d'accord. Vous savez, quand vous voyez, déjà, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, quand vous voyez l'univers carcéral et ce qui se passe à l'intérieur, vous vous dites qu'on a quand même un léger problème, quoi. Mais les gars, ils vivent là-dedans, mais allez voir du côté de Fleury-Mérogis, vous allez être estomaqué, hein. C'est hallucinant, quoi. Moi, quand je vois ça, ça me révolte. Et je reprends les arguments d'Hervé, encore une fois, et je vraiment, cet homme-là, il est sensé. Moi, je leur en ferai baver. Le mec qui sort de prison, il a qu'une envie, c'est surtout de pas recommencer. Mais aujourd'hui, attendez, on leur fait des menus sur mesure, ils ont la télé couleur et tout. Non mais attends, on va où là?
Ils ont la télé, mais... ils ont le droit de regarder la télévision, c'est pas ça changer.
Mais attendez, et ceux qui ont enlevé des vies, ils avaient le droit de le faire. Attendez, on est en train de pleurnicher sur le sort de délinquants. Regardez, celui qui vient de brûler sa femme, enfin c'est pas le même sujet, mais attendez.
C'est un sujet en tout cas qui aujourd'hui vient dans l'actualité en même temps.
Franchement, je suis révolté. Je suis très attristé. Vous savez, en France, Pascal, permettez-moi, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous dites que les Français aiment leur police. Moi, j'habite dans une ville, Chelles, en Seine-et-Marne. Vous voyez, c'est pas une ville de voyous, mais elle a le défaut d'être limite du 93. Allez voir dans la rue principale, quand une voiture de police, elle passe, et puis quand il y a tous les petits voyous, je ne dirais pas, j'en dirais pas plus, hein, on va dire des petits voyous, qui se réjouissent, s'ils pouvaient lancer des pierres, faire des gestes obscènes, des doigts d'honneur et tout ça, quand il y a le passage des flics, mais c'est scandaleux. Alors évidemment, quand vous êtes sur le trottoir, vous voyez ça, qu'est-ce que vous voulez? Moi j'ai 72 ans, je suis pas Rambo, je vais pas aller m'amuser à taper dessus, mais il y a des fois j'ai envie de le rentrer dedans, hein, je vous le dis franchement. Hein. Voilà.
Bon ben merci, merci Roland. Et là, je pense que vous voyez, quand on termine une conversation comme on vient d'avoir avec Roland, je suis persuadé qu'un très grand nombre d'auditeurs viennent de vous écouter et viennent de se retrouver dans les mots que vous avez dit et dont dans la manière dont vous les avez dit également. Ça, je n'ai pas de sondage là-dessus, Roland, mais je suis persuadé que vous avez exprimé une pensée, j'allais dire de bon sens, et croyez-moi, c'est pas péjoratif dans ma bouche, ce mot-là. Ce que vous venez de dire, il y a beaucoup de gens sans doute qui se reconnaissent dans cela. Merci Roland, à tout de suite.
Bonne journée, au revoir.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et nous sommes avec Daniel. Bonjour,
oui,
Daniel Dezelle.
Bonjour,
et merci
voilà,
d'être
bonjour
avec
Monsieur
nous.
Pro, et je vous remercie beaucoup d'avoir sélectionné mon témoignage.
Je vous en prie.
Moi, je suis une fidèle auditrice de votre émission, et j'avais déjà réagi en avril 2019 avec Madame Tassard au sujet des suicidez-vous qui avait été adressé aux policiers. Et avant toute chose, je voulais vous dire que je voulais adresser, ainsi qu'au nom de toute ma famille, toutes mes pensées à cette famille, ainsi qu'à tous les collègues. Et moi, je tiens à vous dire, je suis épouse, je suis belle-fille, je suis belle-sœur, je suis tante de fonctionnaire de police, et j'ai moi-même été personnel administratif de la police nationale. Et je voulais vous faire part de notre peine et de notre indignation, et bien sûr de mon émotion, donc je ne peux pas cacher. Alors, une nouvelle fois, un policier là est tombé, et finalement, je trouve que finalement, on finit par s'habituer à cette évolution, et on fait preuve d'une certaine indifférence. Moi, je l'ai vu, j'ai participé au dernier rassemblement, aux deux derniers, celui qui avait lieu devant les tribunaux de police pour le verdict de Viry-Châtillon, et également au rassemblement qui a eu lieu très récemment pour la fonctionnaire administrative qui avait lieu devant les commissariats. Et je me suis aperçue que, à part les collègues, surtout beaucoup de retraités qui étaient présents et dont je fais partie, il y a très peu de population qui se mêle à ces rassemblements, et pourtant ce sont des rassemblements qui sont annoncés dans la presse. Donc je suis quand même surprise que finalement on ne se motive pas pour ce genre de mouvement. Alors je voulais également dire, moi j'ai 3 enfants, j'ai un fils qui a 24 ans, et il y a quelques années, là il y a 2-3 ans, il avait tenté les concours de police et de gendarmerie. Il avait souhaité suivre les traces familiales, et donc il avait suivi une voie très logique, faculté de droit et ainsi de suite. Il avait préparé ses concours et j'en étais très fière. Et finalement, il est resté une heure à l'école de gendarmerie, puisque c'est le concours de gendarmerie qu'il a eu en premier. Il est resté une heure à l'école de gendarmerie et il a signé sa démission. Entre-temps, il y avait les attentats qui étaient passés par là. Et finalement, il s'est dirigé vers une toute autre voie. Je peux vous assurer que, autant que j'ai été fière, finalement, d'avoir un certain nombre de ma famille, de membres de ma famille qui font partie de cette maison, autant j'étais heureuse au départ quand je l'accompagnais dans les forums métiers et que je voyais qu'il se dirigeait vers cette voie. J'étais très fière. Je peux vous assurer que j'ai poussé un ouf de soulagement. Et je me dis que si le métier perd de son attrait, il y a sûrement des raisons. Il y a sûrement des raisons, parce que je ne sais pas, à part des métiers comme celui des policiers, des gendarmes, des pompiers, de journalistes comme ceux de Charlie Hebdo, par exemple, qu'on est obligé de protéger en permanence. Je ne sais pas s'il existe beaucoup de métiers où on parle à peur au ventre dans le cadre de ces activités.
Mais vous avez raison,
Daniel. Si on va rentrer.
Mais vous avez parfaitement raison, Daniel. Et voilà. Effectivement, c'est quelque chose qu'on dit régulièrement. Il y a beaucoup de témoignages de policiers qui vont dans ce sens-là. Mais vous avez parlé de familles de policiers. Et souvent, en fait, ce sont des familles de policiers. C'était le cas de Eric, qui est mort hier à Avignon. Il avait 36 ans. Dans sa famille, le métier de policier, c'est une tradition familiale. Son père venait de prendre sa retraite, mais avait porté l'insigne dans le Gard. Sa sœur a revêtu l'uniforme et son frère était affecté en Île-de-France. Et le fonctionnaire de police faisait son métier avec passion et ses collègues le décrivent comme un policier exemplaire. Il avait officié dans le Val-de-Marne au sein de la brigade anticriminalité. Il avait rejoint il y a 4 ans le groupe de recherche et d'intervention et menait parfois des opérations de maintien de l'ordre. Il intervenait surtout pour des affaires de trafic de stupéfiants. Le frère de la victime voulait demander une mutation pour se rapprocher de sa famille. Et ce fonctionnaire de police était paxé. Il laisse derrière lui 2 petites filles âgées de 5 et 7 ans. C'est un drame absolu.
Mais vous savez, Monsieur Pro, moi je suis persuadée qu'on récolte ce qu'on sème. C'est-à-dire que quand on revoit à la baisse certaines peines, comme on a vu dans entre autres dans le procès de Viry-Châtillon, quand on revoit ces peines à la baisse, écoutez, c'est quand même un signal qui veut dire, un message qui veut dire qu'il y a quand même une impunité. Je suis désolée.
En tout cas, c'est perçu comme ça dans l'opinion publique. Je sais, c'est la différence, c'est que aujourd'hui, l'opinion publique, et on le voit à travers cette émission, a le sentiment que la justice ne fait pas ce qu'il faut faire avec ces criminels.
Alors. Moi, je pense très très souvent à mon père. Mon père était ancien combattant et avait été ouvrier d'État donc toute sa carrière. Et finalement, il nous a inculqué finalement une notion de respect de l'ordre, des valeurs de la République. Eh bien ça, je suis persuadée qu'il manque un maillon dans la chaîne. Et je ne suis pas persuadée que c'est déjà ces générations, mais je pense que c'est déjà les générations antérieures. Vous voyez ?
Ben merci Daniel, merci beaucoup de votre témoignage et on aura deviné, compris et votre émotion pour les raisons qui sont les vôtres. La pause, j'ai même pas salué Greg Caradoni, il y a des émissions évidemment qui sont plus lourdes, plus dramatiques chaque jour et celle-ci en fait partie parce que ce soit à Mérignac ou à Avignon, l'actualité est dramatique. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Vous pouvez nous appeler pour parler de la campagne de vaccination. Emmanuel Macron a inauguré ce matin un vaccinodrome à Paris, au parc des expositions de la Porte de Versailles. Le chef de l'État a notamment fait une annonce.
À partir de mercredi 12, vous pourrez regarder la veille sur le site, qui est Doctolib, les doses qui sont disponibles. Et cela, quel que soit votre âge. Et s'il y a, à l'endroit où vous êtes, des doses qui sont disponibles le lendemain, et donc des rendez-vous qui ne sont pas pris, ils seront ouverts sans limite d'âge.
Sans limite d'âge et sans condition, la vaccination des plus de 50 ans est avancée à lundi prochain au lieu du 15. Vous pourrez réagir si vous le souhaitez au 3210 3210 sur votre téléphone.
Eddy est avec nous, il est policier. Eddy à Marseille. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Beaucoup merci de policiers d'ailleurs qui appellent forcément parce qu'ils sont touchés, ils sont en première ligne.
Oui, merci à vous de me laisser parler sur ce drame qui a touché un de nos camarades. Il était policier à Marseille aussi, donc moi je suis un peu ému. Je pense à sa famille, à sa femme et à ses collègues avec qui il bosse. Et ils auront notre soutien à nous, nos policiers. Et ce collègue qui bosse à Marseille qui a laissé une belle image, qui était quelqu'un de bien, à ses collègues avec qui il bossait. C'est trop Pascal. Petit à petit, on nous traite de racistes, d'homophobes. On est épiés. Je peux comprendre, mais ce sentiment que c'est pas la grande partie de la population qui pense comme ça. Mais à un moment donné, c'est trop. Vous parlez tout à l'heure de cette violence. Moi, je vis dans les quartiers nord. Je suis un enfant de, je suis marseillais. J'ai grandi dans la Marseille. Je suis un fils d'immigré. Ça fait 18 ans que je suis policier. J'ai fait que du terrain. Et je peux vous assurer que le trafic de drogue, ce fléau, ce cancer, ça devient, mais On est rentré là.
Mais qu'est-ce qui a changé, Eddie? Qu'est-ce qui a changé en 18 ans?
Vous savez ce qui a changé?
Ben non.
C'est le rapport à l'autorité, en fait. Vous savez que la justice, c'est la justice de faire peur. Nous, policiers, on peut susciter le respect, la crainte. Mais à partir du moment où la personne sait qu'en attaquant un policier, en frappant un policier, ou en agressant quelqu'un, en arrachant un sac, en plantant quelqu'un, il risquera quoi?
Mais quand est-ce que ça a changé? Quand est-ce que ça a changé?
J'ai plein d'exemples. J'ai des dizaines, des centaines d'exemples dans toute ma carrière. J'en ai un récemment où on interpelle un jeune de 17 ans sur un trafic de stupé. Il était sur le point de vente. On l'interpelle. Il était recherché. Vous savez ce qu'il a fait? Il a volé un portable sous la menace d'un couteau. Il a planté le mec. La victime le reconnaît. Le frère de l'auteur va le lendemain au commissariat en disant « Mais c'est mon frère qui a fait une bêtise, tout ça. » Il était recherché, au bout de 3 semaines, on l'interpelle. Vous savez où il est, là?
Non.
Il est dehors.
Mais quand vous dites qu'il a planté, il a tué?
Il n'a pas tué, il a pris le portable, il a tailladé le mec. C'est un vol aggravé.
Et donc, la personne qui l'a tailladé, comme vous dites, a été blessée gravement?
Pas gravement, mais il a été blessé.
Donc, cette personne-là est dehors aujourd'hui, alors que selon vous, elle devrait être évidemment sous les barreaux.
Quelqu'un qui représente un danger pour la société.
Bien sûr, c'est un exemple très concret.
Donc après, c'est pas moi.
Alors, qui décide de le mettre dehors? C'est le juge.
Ah ben, c'est la justice de s'expliquer. Nous, on est là pour interpeller, pour mettre...
C'est entendu. Donc, vraiment, j'aime beaucoup les exemples, pour tout vous dire, dans cette émission. Parce que ça permet de se faire un avis précis. Donc, vous connaissez donc un délinquant qui vole un portable, qui pour voler un portable taillade la personne à qui il vole le portable. La personne n'est pas blessée gravement, et cette personne, aujourd'hui en France, elle ne passe pas par la case prison. Elle sera jugée sans doute, elle sera jugée dans quelques jours ou dans quelques mois.
Alors, c'est risible, hein. Cet individu-là qui est là avant 18 ans a reconnu avoir volé le portable, a reconnu avoir le couteau à la main, dit non, je ne l'ai pas taillé, je ne l'ai pas agressé, et il est dehors.
Voilà. Cette personne sera quand même jugée, forcément.
J'espère.
Il y a des charges qui ont été retenues contre lui.
Oui. En fait, il a été demandé sur cette affaire, par exemple, qu'il y ait une confrontation, alors que tous les éléments sont probables. En plus, on peut...
Mais alors, pourquoi ça? Parce que moi, je ne comprends pas. Le juge, par exemple, il n'a pas la volonté de ne pas... Il n'a pas la volonté d'être laxiste. Je ne l'imagine pas. C'est parce qu'il n'a pas de preuves, parce qu'il n'a pas d'éléments matériels, parce qu'on est dans un état de droit. Et c'est important de le préciser. On ne peut pas accuser des gens sans preuves, vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis c'est important, c'est même essentiel.
Pascal,
ne vous méprenez pas.
Mais Pascal, à partir du moment où la victime reconnaît son agresseur, où le frère de l'auteur confirme que c'est son frère qui a agressé, où l'agresseur reconnaît en partie le vol et qu'il avait un couteau, l'individu, donc il avait quasi 18 ans, était archi connu. D'accord. Oui, il y a de la présomption d'innocence. Tant qu'il n'est pas jugé coupable, il n'y a pas de souci. Et l'histoire du collègue c'est quoi la solution, Pascal?
Mais je ne sais pas, parce que ce qui m'intéresse, c'est votre témoignage. Vous êtes sur le terrain depuis 18 ans. Je retiens que vous me dites ça a changé. Depuis quand ça a changé, d'ailleurs?
Je pense entre 5-6 ans.
D'accord. Donc, c'est le rapport à l'autorité. C'est pas tant que ce soit plus violent, mais c'est que aujourd'hui, vous arrivez et on n'obtempère plus, quoi.
Bah oui, mais c'est ça, Pascal. C'est comme la force d'exemple est très importante dans ce genre de situation. On a un délinquant qui est notamment connu dans les quartiers nord, qu'on connaît, qui vole des voitures, qui
Ça, c'est un autre cas que celui dont on parlait à l'instant.
Voilà, tout à
d'accord.
fait.
Allez-y.
Et cet individu qu'on connaît, on a un rapport entre policier et voyou. Il est très respectueux au demeurant. Bon, il fait ses conneries, on l'interpelle plusieurs fois. Et il a été interpellé pour un braquage de camion. Et il est sorti au bout de 3-4 mois de prison. En discutant, parce qu'il y a quand même ce rapport en discussion. Et je lui dis alors, la prison, tu en penses quoi? Et là, il ricane, il rigole. Et réponse, c'est le Club Med.
Bah, il fait peut-être le fier, parce que c'est pas le Club Med, la prison. Il était au Beaumet.
Il était au Beaumet, au nouveau dans les nouveaux bâtiments des Beaumet.
C'est pas le Club Med, là, les Beaumet. Là, il fait le fier à bras. Il vous provoque peut-être.
Ah non, bon, il ne me provoque pas, vous inquiétez pas, on ne me provoque pas. Même si on me provoque, j'ai du répondant. Et toujours dans la légalité.
Mais alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Il a raison? C'est le Club Med?
Oui, il a raison, je vous le dis, il a raison.
Vous trouvez que les Beaumet, c'est le Club Med?
Une partie des Beaumet, c'est le Club Med. Oui,
mais,
je pense.
Bon, bah on fait de la pub au Club Med en même temps. Oui, mais je ne sais pas si c'est de la bonne pub pour tout vous dire.
Je vais vous dire une chose. L'autorité commence à l'école, commence après.
Oui, ça, on est d'accord là-dessus. D'accord.
Il faut que la justice soit irréprochable.
Mais elle commence à l'école. Pardonnez-moi, elle commence pas à l'école d'ailleurs. Là, si vous me permettez, vous vous trompez.
À l'éducation, oui.
Elle commence à la maison. Mais si, oui, pour des raisons X ou Y que l'on connaît par cœur, cette autorité ne passe plus parce que le père est pas là, parce que la mère est pas présente, parce que ceci, parce que cela, t'es dans une société.
Pascal, vous avez un auditeur qui disait que les profs à l'époque mettaient une tarte. Tout ça. Je vais le rejoindre sur un point. Moi, mes défunts parents nous disaient. Nous apprenons à aimer le pays, à aimer la France, vous êtes français, voilà, vous êtes ici, et à respecter l'autorité, même à respecter les personnes plus âgées que nous.
Mais je sais tout ça, mais la société, hélas, Eddie, vous venez, quand vous êtes de quelle origine d'ailleurs, Eddie ?
Kabyle.
Non, mais ce qui est fascinant, c'est que vous avez donc 39 ans et que cette génération-là s'est parfaitement bien intégrée et que celle qui a aujourd'hui 20 ans, qui est donc la troisième ou quatrième génération, c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais là aussi on enfile les perles, eh bien il se passe quelque chose et personne n'a exactement la solution. Et vous-même, qui êtes d'origine kabyle, ne reconnaissez sans doute pas l'endroit où vous avez vécu, les jeunes qui ont été, qui sont passés derrière vous, et il y a eu quelque chose dans les générations qui n'a pas fonctionné.
Tout à fait.
Dans la transmission. Mais vous aviez peut-être chez vous vos parents qui étaient un point d'ancrage très fort, Eddie.
Ah, très très fort.
Qu'aujourd'hui, ça n'existe plus.
Non, mais c'est fini. C'est fini. Si par malheur, le professeur ou l'institut fait un reproche à un élève et le parent ne sera pas d'accord, c'est pas d'accord, vous êtes à droite, c'est moi les parents. Voilà. Il y a autre chose aussi, simplement, quand vous faites un feu rouge, il y aura le policier qui vous verbalise. Et vous serez sanctionné immédiatement. Quand vous fraudez le fisc, il ne vous manque pas, ils ne vous manqueront jamais le fisc. Il y a la sanction qui est là. La sanction est quasi immédiate. Quand quelqu'un fait un acte, un délit,
il n'y a pas de sanction. Bah merci Eddie, en tout cas, on a prolongé un peu, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est la vérité du terrain, donc c'est pour ça que j'ai un peu prolongé notre échange.
Pascal, deux petites choses.
Mais très vite.
Un grand courage à tous mes collègues de France et de Navarre et d'Outre-mer, parce que voilà, parce que sans nous, que restera-t-il ? Plus personne. On est les seuls qui rentrent dans les quartiers difficiles, on est les seuls. Et félicitations pour ces news.
Bah non, mais en tout cas, vous êtes gentil, mais là, on est sur RTL. Mais en tout cas, votre témoignage a l'accent de la sincérité et de la vérité. Et chacun l'a ressenti comme cela. Et puis, de la bienveillance aussi. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que vous avez dit, Eddie.
Bonjour, merci à vous.
Dans ce que vous avez dit, Eddie. Ça, je n'avais pas prévu comme ça, mais merci en tout cas, Eddie. Merci Eddie. Il est 13h58, le 14h dans une seconde.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Il est 14h. Le flash avec Alexandre de Saint-Aignan.
Le gouvernement lance une mission d'inspection après le féminicide de Mérignac près de Bordeaux. La justice et l'intérieur veulent comprendre comment cette mère de trois enfants a pu être brûlée vive par son mari violent, pourtant condamné et emprisonné il y a moins d'un an pour des violences conjugales. La victime avait porté à nouveau plainte contre lui le 16 mars dernier. Une femme interpellée dans l'enquête sur la mort d'un policier tué par balle à Avignon hier soir lors d'une intervention sur un point de trafic de drogue. Cette femme serait une cliente qui aurait été présente au moment du drame. L'auteur des coups de feu, lui, est toujours activement recherché. Pour éviter les doses perdues, il n'y aura bientôt plus de limite d'âge. À partir de mercredi prochain, tous les rendez-vous du lendemain seront disponibles à la réservation. En attendant, dès lundi, la vaccination sera ouverte aux plus de 50 ans. Ceux qui sont atteints de maladies graves, eux, peuvent déjà se faire vacciner désormais dès l'âge de 16 ans. En parallèle, Emmanuel Macron s'est dit ce matin favorable à la levée des brevets sur les vaccins, mais il faut surtout transférer la technologie et le savoir-faire guerre pour qu'il y ait des plateformes qui puissent produire des vaccins ARN messagers en Afrique. Selon lui, il a rappelé que l'Europe est le continent le plus généreux avec le reste du monde en matière d'approvisionnement en vaccins. Un bras de fer dans la Manche, alors qu'une cinquantaine de bateaux de pêche français manifestent actuellement près de l'île de Jersey. Le Royaume-Uni a envoyé sur place 2 navires militaires. La France, elle, a envoyé des patrouilleurs pour sécuriser la manifestation. La ministre de la Mer, Annick Girardin, appelle les autorités britanniques à revenir sur les restrictions imposées aux pêcheurs français à la suite du Brexit. Le ciel, demain, encore un peu de pluie le matin du Pays Basque aux Alpes, en passant par le Massif central. Ça va s'éclaircir au fil des heures sur l'ensemble des régions. Côté température, il fera 12 degrés à Lille demain, 13 à Brest, 14 à Paris, 15 degrés à Nantes, 21 à Marseille et 24 à Perpignan. Il est 14h02, vous retrouvez Pascal Praud.
Merci Alexis.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
C'est une journée dramatique, particulière, et on a parlé d'Avignon. On va maintenant parler de Mérignac, ce drame qui s'est déroulé hier en Gironde. Une mère de famille de 31 ans tuée, brûlée vive par son mari qui lui avait tiré dans les jambes avec un fusil pour l'empêcher de s'enfuir. Un féminicide qui a ému toute une ville et qui interroge également sur les failles d'un système judiciaire. On en a parlé tout à l'heure dans le journal de Christelle Rebière. L'homme avait déjà frappé son épouse à plusieurs reprises. Il avait même été incarcéré pour cela. On est avec Claude. Bonjour.
Bonjour Pascal Praud, merci de me prendre en ligne.
Merci à vous.
J'ai fait un petit peu le point avec votre interlocuteur tout à l'heure. Effectivement, je suis de formation juridique à l'origine. Et je voulais intervenir effectivement sur ces deux points, à la fois le féminicide de Mérignac et l'assassinat du policier hier. Je considère ça comme un assassinat. Mon point de vue est très simple. Je considère que les juges, la justice en général aujourd'hui, ne mettent pas la même valeur à juger des atteintes à la vie qui portent jusqu'à la mort pour certaines personnes. Nous en avons deux cas là. Et perdent du temps sur des affaires beaucoup moins importantes. Les prisons sont encombrées, mais certes, il y a d'autres moyens pour traiter les gens. On peut passer par des choses beaucoup plus simples. La justice aujourd'hui s'acharne sur des dossiers de certaines personnes politiques, dont je ne citerai pas les noms, quel que soit leur bord politique. On perd du temps et des années. On mobilise du personnel judiciaire, on mobilise des greffiers, des juges, pour des choses qui ne portent pas atteinte à la vie, qui ne sont pas essentielles. Ce n'est que de l'argent. L'argent, ce n'est pas la vie. Ramenons les choses à l'essentiel, ramenons-les à la vie. Un policier est mort hier, certainement qu'on chopera l'individu qui l'a fait et on découvrira qu'il avait un casier judiciaire ou qu'il était très fortement connu des services de police. On a chopé le mari ou conjoint qui a tué et brûlé sa femme hier, ou son ex-conjointe hier. Cette personne était donc forcément connue des services de police puisqu'il avait des plaintes contre lui, qu'il avait été emprisonné, qu'il avait bénéficié, si je l'ai bien compris, de remise de peine. Est-il normal qu'une personne qui est dans un état de violence pareil puisse être relâchée sans aucun contrôle ? J'ai appris très récemment que le bracelet, ce qu'on appelle le bracelet électronique, ne fonctionne que tant que l'individu est à son domicile. Ça permet de savoir qu'il est à son domicile. Ça ne permet pas de le suivre comme un GPS quand il quitte ce domicile. Alors, à quoi sert-il de lui mettre un bracelet si on ne peut pas le suivre jusqu'au moment où il va agresser sa conjointe ou son ex-conjointe ? C'est là qu'il serait utile que les choses soient réformées de manière très simple. Peut-être faudrait-il faire abstraction de politiques qui rêvent et qui sont sur des nuages pour pondre des lois aujourd'hui, qui pondent des lois inapplicables, et peut-être consulter des citoyens beaucoup plus près de la réalité pour se mettre à jour et simplifier les choses.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites remise de peine. Et moi, j'ai le calendrier. C'est toujours intéressant de voir le calendrier. Le 25 juin 2020, je l'ai dit tout à l'heure, il est donc Mounir B. Il est condamné à Bordeaux à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis. Donc, en clair, il est condamné à 9 mois ferme. Nous sommes d'accord. C'est le 25 juin 2020. Et le 5 octobre 2020, c'est-à-dire juillet, août, septembre, 3 mois et quelques jours après, il est, par jugement du juge de l'application des peines en date du 29 septembre 2020, il y a une mesure de placement extérieur spécifique
pour les auteurs de violences conjugales, c'est-à-dire qu'il sort de prison en clair. Et exactement. Son écrou est levé le 9 décembre 2020. Donc en France, quand tu es condamné à 9 mois de prison ferme pour récidive de violences conjugales, en fait, tu ne fais que 3 mois. C'est ça la vérité. La vérité des chiffres, c'est ça. Donc après, chacun pense ce qu'il veut de ça. Donc déjà, tu es en récidive dans une violence conjugale. Je ne sais pas ce qu'il avait fait, s'il avait frappé, maltraité, etc. Mais c'est suffisamment important pour que le juge prenne une peine de prison ferme. Elle est donc, je le répète, 18 mois, dont 9 fermes. Et tu sors au bout de 3. Donc évidemment... Les citoyens que nous sommes, on se dit, mais on marche sur la tête. C'est ça qu'on se dit. Tous.
Exactement.
Tous, on se dit, ça sert à rien de condamner des gens. S'ils ne font même pas 50% de la peine, il l'a fait un tiers de la peine. Alors vous me direz, ça aurait peut-être rien changé. Peut-être, d'ailleurs. Mais c'est pas le sujet, si j'ose dire. Pourquoi faire des peines s'ils ne sont jamais appliquées? Mais dès qu'on entre précisément dans une affaire, avec des chiffres, avec des peines qui sont prises, quand est-ce qu'elle a été prise, pourquoi ? Bon, on s'aperçoit qu'effectivement, on est surpris. Voilà, je vais le dire comme ça pour ne pas trop éditorialiser. On est surpris et effectivement, ça donne du grain à moudre à l'idée que la justice ne ferait pas ce qu'elle doit faire. Il est 14h07, merci Claude et on va poursuivre le débat. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Nicolas est avec nous et je le salue. Bonjour Nicolas, vous êtes gestionnaire de stock et vous allez témoigner sur un sujet assez particulier puisque vous avez un casier judiciaire pour agression sexuelle et que vous avez un suivi aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ?
Bien sûr. Donc moi, effectivement, donc j'ai 47 ans. J'ai été jugé en 2011 pour une agression sexuelle. Donc j'ai pris 12 mois avec sursis, une amende de 5000 euros et obligation de me rendre à un commissariat de police ou gendarmerie tous les ans à ma date anniversaire jusqu'en 2047.
Et qu'est-ce que vous aviez fait ?
Alors à cette époque-là, j'étais en séparation avec ma conjointe, on avait déjà un enfant. Avec la séparation, j'ai plongé dans l'alcool. Une collègue de travail était venue me voir à la maison alors que j'étais alcoolisé. Et puis j'ai essayé d'abuser d'elle, elle a porté plainte, elle a été déposée plainte à la gendarmerie. Le lendemain, les gendarmes sont venus me voir à la maison, j'ai avoué tout de suite les faits. Et puis donc voilà, 8 mois après, je suis passé en jugement et donc j'ai pris 12 mois avec sursis, 5000 euros d'amende et donc obligation de se rendre au commissariat de police tous les ans à ma date anniversaire jusqu'en 2047. Donc là pour moi, je trouve que c'est une incompréhension la plus totale aujourd'hui, la justice. Sur ce que vous disiez juste avant, hein, quelqu'un qui est condamné 18 mois, il n'en fait que 3. Il faut des sanctions exemplaires.
Mais si vous me permettez, Nicolas,
oui.
L'agression sexuelle était en 2011. Le jugement était en quelle année ?
Début d'année 2012.
Je pense qu'aujourd'hui, pour les mêmes faits, la société me paraît beaucoup plus dure sur ce type de faits. Et si la société est plus dure, la justice souvent répond à cette société. Et pour une agression sexuelle aujourd'hui, je ne suis pas certain que vous vous en sortiriez à si bon compte, si vous me permettez.
Oui, non mais je suis.
Je ne sais pas si vous partagez cet avis, puisque
si, tout à fait.
Agression sexuelle, 12 mois avec sursis et une peine d'amende, je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi ce témoignage, on voit combien en 10 ans, la société, elle porte sur une agression sexuelle un regard différent.
Tout à fait. Non, mais on est complètement d'accord. Mais là où je voulais réagir aussi, c'est contre l'individu, enfin sur l'affaire de Mérignac. Comment on a pu laisser passer ça
C'est pour ça qu'une enquête est diligentée d'ailleurs. Parce qu'en fait, il y a une plainte le 15 mars contre cet homme. La police a fait son travail, mais
il n'avait pas donné une bonne adresse, c'était une fausse adresse qui était donnée, et il n'y avait pas de téléphone répertorié. Donc le suivi de l'administration ne s'est pas fait comme il aurait dû se faire. D'où la demande d'inspection qui a été demandée par Marlène Schiappa, Éric Dupond-Moretti et également par, je crois, Gérald Darmanin, mission d'inspection décidée pour voir où il y a eu des manquements, parce que manquements il y a eu et la justice a peut-être failli, oui.
Oui, mais après, jusqu'à encore la prochaine histoire. Voilà, parce qu'il y aura encore d'autres faits comme ça. Et c'est pour ça que je rejoins ce que disait Hervé tout à l'heure et Christian, notamment sur l'emprisonnement, les gens en prison. Vous voyez, il y a encore un policier qui vient de dire c'est le Club Med. Il y a un gros souci, là. Il y a un gros souci.
Honnêtement, je ne pense pas que la police soit le Club Med. C'est pas, il rapportait une parole de un détenu qui sortait des Baumettes qui a dit c'est le Club Med. Bon, moi, je pense pas que ce soit ça.
Pascal, tout à l'heure, vous étiez un petit peu surpris du fait que les détenus ont la télé en prison. Pour moi, il n'y a pas de télé. On va où, là ?
Écoutez, c'est un débat. Ils sont privés de liberté. Moi, ça ne m'ennuie pas que les détenus puissent regarder la télévision. C'est pas
ça
qui...
Moi, ça m'ennuie, ça me désole.
Pourquoi ?
Mais parce que c'est
alors, faut pas qu'ils lisent non plus, ils n'ont pas le droit de lire, on les laisse tout seuls pendant 12 mètres carrés.
Mais il faut leur faire comprendre les choses. Le problème, il est là. Il y a encore 150 ans en arrière, quand vous étiez prisonnier, vous aviez le boulet avec une chaîne au pied, vous tapiez de la pioche, de la pelle, voilà. Il faut vraiment faire des choses exemplaires. Parce que les gens, ils rigolent aujourd'hui. Ils rigolent. Avant, moi j'en discutais avec mon beau-père qui a 78 ans, il avait volé une orange, c'était limite si on lui avait pas coupé la main. Franchement, attendez, regardez la personne là qui s'est fait même pas juger parce que soi-disant il avait fumé du cannabis, il a jeté quelqu'un par le balcon.
C'est encore autre chose, mais c'est vrai que toutes ces affaires créent un sentiment de défiance sur la justice aujourd'hui. Et pourtant, ces affaires n'ont aucune... Elles n'ont aucun rapport les unes avec les autres. L'affaire Sarah Halimi n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé hier, mais il y a un point commun parfois, c'est la justice.
Voilà,
merci en tout cas, Nicolas. Aujourd'hui, aujourd'hui, là, ça va bien, si j'ose dire ?
Eh bien, tout va bien. J'ai fait 2 cures de désintoxication à cause de l'alcool. J'ai ma femme, j'ai mes 2 enfants aujourd'hui et tout va bien. Voilà, ça m'a mis du plomb dans la tête. Voilà. J'ai pris une sanction, peut-être qui était...
C'est-à-dire que vous vous êtes remarié, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et vous avez eu 2 nouveaux enfants ?
Voilà, exactement.
Bah écoutez...
Donc voilà, la vie est belle, entre guillemets. Voilà.
Non, mais je suis content pour vous, Nicolas.
C'est gentil.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Virginie est là, merci beaucoup. Virginie qui habite Laval, qui est déléguée pharmaceutique.
Oui,
merci. Virginie, vous vouliez intervenir sur le drame de Mérignac, qui est terrible d'ailleurs. C'est quand on imagine, c'est une banalité de dire ça, mais la folie humaine qui fait qu'un homme tire sur une...
de la justice surtout.
Oui, mais qu'un homme puisse tirer sur celle qu'il a aimée. Ils ont un enfant ensemble. Vous rendez compte, pour cet enfant qui va grandir, évidemment, sans sa mère, maintenant sans son père également, mais les vies brisées, les vies cassées, c'est terrible. Et il y a hélas, rien à dire de ce point de vue-là. Virginie, c'est à vous.
Oui, alors bonjour Pascal, merci de m'écouter. Donc effectivement, je vous écoute tous les jours et je vous avoue que, excusez-moi, mais depuis hier, je suis assez émue par ce qui s'est passé, car moi-même, j'ai été dans une situation avec mon ex-compagnon qui était violent, donc avec moi-même et avec aussi la mère de ses enfants par le passé. Donc, a été incarcéré à cause de ça il y a plusieurs années, incarcéré à nouveau à cause des plaintes que moi j'ai déposées contre lui. J'ai obtenu une mesure d'éloignement par le juge lors d'un jugement en mars 2018. Mais je vous avoue qu'il y a un laxisme de la part des forces de l'ordre qui est probant, quoi. Enfin, moi, je suis la preuve aujourd'hui que quand on appelle la police, avec une mesure d'éloignement, j'étais à ma salle de danse ce soir-là. Monsieur violent était devant, m'attendait. J'appelle la gendarmerie, je leur explique qu'il est là, qu'il m'attend. J'ai ma mesure d'éloignement. Et on me répond, mais madame, montez dans votre voiture et rentrez chez vous.
C'est évidemment pas la bonne réponse, Virginie.
Voilà.
Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là?
Bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu dans ma salle de danse avec des amis qui étaient là et on a attendu, je sais pas combien de temps, je vous avouerai que
Ils ont pas voulu vous accompagner à la voiture ou rentrer ensemble.
On était que des femmes, donc on n'est pas sortis. Il y avait la directrice qui était là, donc elle a fermé la salle et on a attendu.
Et les policiers ne se sont pas déplacés.
La gendarmerie.
Et vous êtes allé les voir le lendemain, vous avez poursuivi, vous avez fait une suite, parce que ça, c'est pas normal. Est-ce que le lendemain, vous êtes allé déposer une plainte ou aller voir la justice, je ne sais pas, faire une démarche, parce que ce n'est pas normal, Virginie. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal, je suis bien d'accord avec vous, mais non, par la suite, je ne suis pas retournée les voir, parce que on est abandonnés, on est laissés...
Vous êtes abandonnés.
Voilà, donc après, on s'étonne qu'il y ait des femmes qui restent avec des hommes violents. Donc effectivement, il vaut mieux rester avec un homme violent que de risquer de mourir.
Mais il faut surtout partir, Virginie, quand un homme lève la main sur vous. Et surtout, dès la première fois, je vous assure, dès la première fois, un homme qui lève la main sur vous, n'entendez jamais ses excuses. Il s'excuse pour vous demander l'autorisation de recommencer. N'entendez jamais ces excuses. Partez en courant. Partez vite, vite, vite. Parce que s'il lève la main une fois sur vous, il le refera. Vraiment, je le dis à toutes ces... Et il faudrait faire presque parfois une forme d'éducation, apprendre aux uns et aux autres à réagir à ce type de comportement. Un homme qui s'excuse et qui vous demande pardon et qui vous dit « je suis désolé pour ce que je t'ai fait », etc. Il vous demande l'autorisation de recommencer dans 8 jours, dans 1 mois, dans 6 mois. Hélas, il n'y a pas d'autre solution que prendre ses jambes à son cou et partir. Partir, partir, partir. Virginie.
La justice ne fait pas son travail. On n'est pas...
Et vous avez raison, la justice, je ne sais pas, mais en l'occurrence, les policiers ne l'ont pas fait ce soir-là. Merci Virginie, vous allez rester avec nous quelques secondes, on va marquer une pause, mais ne pleurez pas Virginie, ne pleurez pas, aujourd'hui ça va bien.
Oui, tout à fait, mais c'est vrai que quand j'entends des drames comme ça, ça...
Mais vous êtes en couple aujourd'hui?
Oui, tout à fait.
Et ça se passe bien?
Très bien.
Voilà, essayons d'avoir une note d'espoir. Et cet ancien compagnon, il vous poursuit ou il vous a poursuivi longtemps?
Ah bah oui, trop longtemps. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je suis à 700 km de lui.
Mais c'est terrible, les hommes. Certains hommes sont terribles.
Et encore aujourd'hui, je suis pas sereine quand je sais que ce que je retourne dans cette région où vit ma famille. Je sais qu'il y est. Je suis pas sereine.
Vous avez vu le film Jusqu'à la garde, sans doute?
Oui.
Qui est un film. Moi, je pense qu'il faut le voir, ce film. Il faut le voir parce qu'il décrit précisément la situation. Cette situation, elle est formidable d'ailleurs, Léa Drucker, dans ce film-là.
Tout à fait.
Il faut voir l'emprise, la violence de ces hommes qui considèrent que leur femme est leur chose. Et qui, on parle parfois de pervers narcissique, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est assez masculin d'ailleurs. Il n'y a pas l'exemple chez les femmes, ne se conduisent pas comme ça. Il n'y a pas de femmes qui... qui sont dans cet état-là de possession, qui considèrent que leur femme est à eux. 14h20, la pause, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Virginie, elle est encore là, Virginie?
Oui.
Bon, Virginie, merci de votre témoignage, il était bouleversant.
Mais voilà, tout ça pour dire que 39 féminicides en 2021... C'est inadmissible et qu'au lieu de voter des lois pour la défense de nos animaux, hein, même si je les aime, on prévient de voter des lois pour la défense des femmes.
Merci Virginie. Aurore sera notre dernière auditrice. Elle est étudiante à Sciences Po. Bonjour Aurore.
Bonjour Monsieur Pro.
Et merci d'être avec nous. Vous vouliez réagir sur le drame de Mérignac?
Oui, tout à fait. J'ai été totalement bouleversée quand j'ai appris. Mais c'est quand même le 39e cette année. Donc ça commence déjà à faire beaucoup, malheureusement. Et je voulais revenir sur le principe d'emprise dont vous parliez. Et le plus souvent, c'est qu'en fait, il n'y a pas de moyen de s'en sortir. On ne donne pas les moyens, c'est-à-dire qu'il y a une emprise qui est à la fois psychologique, qui est à la fois économique. Des fois, C'est impossible d'en sortir. Et justement, quand on se tourne vers les institutions, eh bien, on n'a pas de retour. Et je pense que vraiment, on devrait former
je suis d'accord.
les policiers.
Oui, les policiers, et puis même former les tempéraments oui. et prévenir les jeunes femmes.
De tout, enfin, et surtout les jeunes hommes.
Et prévenir, vous avez raison, et exactement, éduquer peut-être d'une manière différente les hommes, vous avez raison.
Parce que c'est vrai qu'on nous demande, on nous dit souvent faites attention, etc. Mais c'est aussi, il y a une formation à faire sur les hommes pour qu'ils fassent un travail dessus et que la société leur dise aussi vous avez des responsabilités. Mmh.
Mais Aurore, vous avez 18 ans par exemple. Est-ce que vos parents, est-ce que votre père vous a mis en garde sur les hommes et parfois sur la manière dont ils se comportent?
Mais bien sûr. Mais
qu'est-ce qu'il vous a dit?
Par exemple, quand je sors, il n'est jamais tranquille. Et à chaque fois, je suis sur Paris, ils ne sont jamais tranquilles. Moi, je suis à Paris. Je suis sortie pas énormément cette année parce qu'il y avait le Covid. Je me suis fait agresser deux fois. Depuis le début de l'année scolaire, dans la rue. Et on ne sait même pas comment réagir.
Bien sûr. Aurore, voilà. On ne peut pas poursuivre hélas la discussion parce qu'il est déjà 14h25. Ce que je vous propose, Aurore, c'est que, comme vous nous appelez régulièrement, qu'on commence demain l'émission avec vous. Hein, pour on parlera de ce féminicide et on continuera la discussion et c'est intéressant véritablement de vous avoir. On vous dit à demain, Aurore, d'accord ?
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Éric avait 36 ans, il était policier, père de deux petites filles de 5 et 7 ans. Elles ne verront jamais leur père rentrer à la maison. Éric a été tué hier lors d'une intervention près d'un point de deal à Avignon. L'émotion était grande aujourd'hui au Standard. Fabrice est également policier. Il nous a contacté au 3210 pour partager sa colère.
Nous avons trop de rappels à la loi. Nous n'avons pas assez de sanctions adaptées aux crimes que ces gens-là ont commis. Les suivis ne sont pas mis en place. Et les premiers qui sont confrontés à ce système-là, c'est nos collègues qui interviennent tous les jours dans les cités ou dans n'importe quel endroit, ils sont des cibles. On se fait tirer comme des lapins en ce moment.
Un ras-le-bol partagé par Eddy, lui aussi policier.
C'est trop, petit à petit, on nous traite de racistes, d'homophobes, on est épiés. Je peux comprendre, mais ce sentiment, c'est pas la grande partie de la population qui pense comme ça. Mais à un moment donné, c'est trop.
Des professionnels qui se lèvent chaque jour, la peur au ventre et l'inquiétude monte. Gérard, policier, nous en parlait.
Hier, c'était mon collègue. Aujourd'hui ou demain ou plus tard, ce sera peut-être moi et ainsi de suite.
Inquiétude pour tous ces hommes, toutes ces femmes qui nous protègent au quotidien. Inquiétude aussi pour les familles. Daniel nous a appelé à être dans les forces de l'ordre. C'est une histoire familiale. Son fils avait intégré l'école de gendarmerie. Il est parti rapidement et c'était pour cette maman un soulagement.
Autant que j'ai été fière finalement d'avoir un certain nombre de ma famille, de membres de ma famille qui font partie de cette maison. Autant j'étais heureuse au départ quand je l'accompagnais dans les forums métiers et que je voyais qu'il se dirigeait vers cette voie. J'étais très fière. Je peux vous assurer que j'ai poussé un ouf de soulagement.
Roland a tenu aussi à pousser un coup de gueule après le meurtre de ce policier de 36 ans.
Je suis évidemment vraiment très attristé et révolté même. Parce que tuer du flic, je veux dire, on n'en peut plus là. Les délinquants, les voyous et tout ça n'arrêtent pas de tuer des policiers.
Un citoyen qui ne supporte plus sa violence quotidienne.
Allez voir dans la rue principale, quand une voiture de police, elle passe, et puis quand il y a tous les petits voyous qui se réjouissent, s'ils pouvaient lancer des pierres, faire des gestes obscènes, des doigts d'honneur et tout ça, quand il y a le passage des flics, mais c'est scandaleux. Alors évidemment, quand vous êtes sur le trottoir, vous voyez ça, qu'est-ce que vous voulez? Moi j'ai 72 ans, je suis pas Rambo, je vais pas aller m'amuser à taper dessus, mais il y a des fois j'ai envie de le rentrer dedans. Hein.
Et Roland aujourd'hui a tenu à insister sur le rôle de la classe politique.
Mais si nos chers députés, au lieu de, je vais être méchant, mais je vais dire, au lieu de glander à l'Assemblée nationale, voter des vraies lois qui sont capables de fixer des barrières, des limites qu'on n'a pas le droit de dépasser avec des sanctions qui sont exemplaires, je pense qu'on n'en serait pas là.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On pense évidemment à tous les proches d'Éric, ce policier de 36 ans tué hier, ainsi qu'à ceux de Chaynaise, 31 ans, tué par son conjoint à Mérignac, brûlé vive. Un père de famille, une mère de famille si jeune, il n'y a rien de plus à rajouter.
Merci Laurent Tessier, Flavie Flamand dans une seconde.